qui naît de l'amour. Pour moi, c'est une clé pour saisir les philosophes, parce qu'il y a un parallélisme constant entre les deux. Et alors, ce qui se fait, c'est qu'il y a un glissement de l'un avec l'autre. Vous voyez, il y a deux philosophes en français, je prends deux philosophes français, puisque Gabriel Marcel et Sartre. Bon, j'ai connu Gabriel Marcel assez profondément. Sartre, je ne l'ai jamais rencontré parce que, vous savez, à un moment donné, rencontrer Sartre, ça faisait partie. Et puis, je n'aimais pas parce que, au fond, c'était flatter Sartre. Gabriel Marcel, on pourrait avoir des relations humaines avec lui. Eh bien, ce qui était très curieux, toute la philosophie de Gabriel Marcel, c'était celle-ci, la Julie. Toute la philosophie de ça, c'est le fâcheur. Alors, il est séparé. Et on aboutissait à deux monstres. Sartre, c'est un artiste. Qu'est-ce qui est intéressant dans ça? C'est son théâtre. Je crois que c'est là où il est le plus intéressant. Gabriel Marcel s'est mis à faire du théâtre. C'était ennuyeux, vous aussi. C'était le salon où vous vous trouvez les chaises assises toujours de la même manière. Les personnes qui sont... Il faut lire une fois du théâtre de Gabriel Marcel. C'est extraordinaire, mais c'est ennuyeux au possible. Parce que vous êtes dans la vie. C'est d'un sérieux. Tous les deux étaient d'atavisme protestant, du reste. Mais l'un s'est converti au catholicisme. Et l'autre est resté, et puis il a tout perdu d'une certaine manière, sauf peut-être à la fin de sa vie. Mais en fait, c'est très vrai que alors, notre culture d'aujourd'hui, parce qu'il y a un phénomène de culture qu'il faut saisir, notre culture d'aujourd'hui ne voit plus que le Thatcherisme. Toute notre culture. Et si vous voyez les lois qui sont éditées aujourd'hui, c'est les lois du Thatcherisme. La loi de l'avortement, elle était uniquement pensée du côté du Thatcherisme. Absolument pas du côté de la Juliette. Alors tous les sophistes viennent de là, vous comprenez? Parce que l'homme, mais oui, l'homme, il est un travailleur, l'homme doit l'efficacité, mais c'est bien évident qu'il doit l'efficacité. Mais l'efficacité qui oublie la source de l'amour, au bout d'un certain temps, se détruit. Alors c'est pour ça que c'est important, vous voyez, ça a l'air au premier abord, forcément, je vous applique ça comme ça, hein, je vois très bien ce que ça peut faire, mais je le fais consciemment. Parce que je crois que c'est une clé merveilleuse pour dépasser le point de vue psychologique et sociologique d'aujourd'hui, pour retrouver l'homme. L'homme est présent dans le fâcheré, l'homme est présent dans la Julie. Parce que c'est l'âme et le corps. En gros, les sources. Enfin, c'est notre corps nous fait partie de l'univers et nous devons dominer l'univers et le transformer. Et notre âme nous permet de rencontrer une autre personne humaine, et de l'aimer, et de faire une œuvre commune avec elle. Oui. Alors, troisième petit problème, vous voyez, ce sont des nota bene, simplement pour des pistes. Hein. Alors, troisième problème, ce serait ici, se demander, dans le fâcherer et l'agir, où y a-t-il du pur fâcherer et où y a-t-il du pur agir? Qui est aussi un problème très intéressant. Vous comprenez que lorsqu'il s'agit de l'amour, vous êtes en face du pur agir. Ah, c'est sûr. La pureté du cœur. C'est pas pour rien qu'on dit la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est que ça jaillisse de source. Ça jaillit de source. L'eau vive. C'est la pureté du cœur, c'est le jaillissement de la source. Il ne faut pas canaliser l'amour. Ah, si vous canalisez l'amour, c'est le fâcheret. Vous canalisez. Tandis que la source, elle ne peut pas être canalisée. Toute la différence entre les deux. Évidemment, quand c'est canalisé, vous avez les robinets d'eau chaude et d'eau froide. Tandis que la source, elle est... Eh bien, il faut maintenir en nous une source. Et ça se maintient. Ça se maintient. Il y a des gens qui sont vivants. Il y a des gens qui sont... Je ne dis pas des somnambules, mais hein, qui sont téléguidés. Et c'est cette source qui nous permet de ne pas être téléguidés. C'est cette source qui nous maintient en nous un critère intérieur. Tiens, ça va pas. Vous savez, les gens qui ont du nez, puis les gens qui n'en ont pas, ça provient de ça. On sent tout de suite, par l'amour, on sent ce qui est humain, ce qui n'est pas humain. Parce qu'il suffit d'aimer une personne pour aimer l'homme. Et en aimant une personne, on aime tous. Ça ne peut pas être autrement. Parce que l'amour ne peut pas se terminer un seul. Et en aimant, mais il y a une expérience toujours personnelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette source, elle, elle est pure, elle est unique. L'intention ne touche pas le point de vue du fatuéré. Mais très facilement, nous transformons nos intentions en projets. C'est ce que fait Sartre. Alors, l'intention est transformée en projet, on voit la contamination du fatuéré. C'est ici où la contamination du fatuéré commence. On ne respecte pas suffisamment ce que c'est que les intentions. Si on ne respecte pas suffisamment les intentions, on comprend très bien comment, après, tout le reste va être contaminé. Il semble qu'il y a un seul moment, c'est très cru, un seul moment où il y a la pureté absolue de l'agir, où on est en face de la source, cet amour spirituel. Normalement, cet amour spirituel, nous l'avions vu, doit se maintenir dans l'intention, et l'intention demande d'être une intention pure, parce que c'est notre fin. Et notre fin n'a rien à voir avec le fâcherait. Pourquoi ? Parce que la fin, c'est ce que nous découvrons comme un bien qui est capable de nous dépasser. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons, ce n'est pas quelque chose que nous réalisons. Ce que nous réalisons, c'est une œuvre. Vous voyez, aimer quelqu'un pour le transformer, aimer quelqu'un pour qu'il soit notre œuvre, ce n'est plus l'aimer. Mais en l'aimant, nous savons que nous le transformons. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche en premier lieu. Toute la différence. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de sentir qu'on est manipulé. Quand vous avez un ami, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Il veut se servir de moi. Comme c'est désagréable. Et vous sentez que dans votre dignité humaine, vous n'avez pas le droit d'être manipulé. Ils se sont servis de moi. Ils se sont servis parce que j'ai été tout simplement amicalement auprès d'eux. Tout de suite, vous voyez, sur la carte de visite des relations. Je suis en relation avec un tel, parce que je l'ai vu une fois. Alors on est manipulé. Et alors on sent très bien, la manipulation vient du fatuéré. Oui, la contamination. Il n'y a plus l'intention pure. Il n'y a plus le respect de la personne humaine. Parce qu'au fond, le respect de la personne humaine est capital par rapport à l'amour. Si vous ne respectez pas l'absolu de la personne humaine, parce qu'elle est l'esprit, vous manipulez le corps, mais vous ne manipulez pas l'âme. Et la grande tentation d'aujourd'hui, à cause des manipulations génétiques, c'est justement de croire qu'on peut manipuler entièrement le corps. Je me souviens, c'était De Monde qui m'avait raconté cette petite histoire. C'était du temps de De Gaulle. N'est-ce pas ? De Gaulle avait réuni, vous savez, les 7 ou les 8 qu'il considérait les plus grands de la France. Et alors, il avait, dans un petit séminaire, pour réfléchir en l'an 1985, en l'an 1985, la France sera dans une situation terrible. C'est ce que De Gaulle avait posé comme problème. En l'an 1985, la France sera dans une situation effrayante. Alors il faudra absolument que le prestige de la France renaisse. Et alors on demandait au professeur Bernard, puisque c'était lui le biologiste qui représentait la biologie, on demandait au professeur Bernard, vu le progrès de la science biologique, de pouvoir produire pour la France 5 petits Mozart. Alors on a posé le problème à Bernard, c'est De Monde qui m'a raconté ça. De Monde qui était habitué quand même aux hommes, tu vois, c'est. Alors, entend Bernard dire, en l'an 1985, étant donné le progrès extraordinaire de la biologie d'aujourd'hui, étant donné la manière dont on peut manipuler l'homme, je vous répondrai, c'était Bernard qui disait ça, je vous répondrai oui au De Gaulle 1985. Oui, je peux vous donner 5 Mozart pour la France. Je paraîtrai naïf. Mais je ne peux pas vous répondre non. C'était très significatif. J'ai gardé ça parce que ça, c'est très significatif de voir qu'au fond, ils sont persuadés qu'en manipulant le corps, on va manipuler l'âme. Parce qu'au fond, l'âme, ça n'existe plus. L'esprit, ça n'existe plus. Oui. Alors, en manipulant le corps, on va pouvoir manipuler le corps. Et c'est vrai que c'est un très gros problème, et les manipulations génétiques, c'est le grand problème de notre, au point de vue biologique d'aujourd'hui, c'est le grand problème. On manipule le corps, pas seulement quand il est dans le sein de sa mère, pas seulement quand il est tout petit, on manipule le corps et on continue de manipuler. Mais on ne peut pas manipuler l'âme. L'âme, c'est le respect qu'on a vis-à-vis de l'âme, c'est un absolu, l'esprit. Et c'est ça l'amour. L'amour découvre l'esprit de l'autre. On découvre l'âme de l'autre, on découvre ce qu'il y a de spirituel en lui. On découvre qu'il y a là un abîme et quelque chose de profond. Alors je crois que c'est ça que nous devons essayer de comprendre, c'est que l'agir nous fait découvrir cela dans le point de vue de l'amour. On découvre l'absolu, on découvre qu'on ne peut pas manipuler un être humain, qu'on n'a pas le droit. Et quand on le manipule, on sait très bien, on le respecte, on lui fait comprendre certaines choses. Et dans la mesure où il comprend, alors on peut coopérer, ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. Vous voyez, alors il y aurait tout ce problème ici, donc l'amour est premier, et ici, dans le facere, l'expérience artistique. L'expérience artistique est absolument en dehors de la vie. C'est le contact premier que nous avons avec l'univers. Cette expérience. L'expérience, c'est la connaissance. La connaissance reste à l'état pur. Hein. Elle n'a pas besoin d'être contaminée. Elle doit être, on doit garder une objectivité. C'est au fond, c'est ça, là où on garde une objectivité. L'inspiration, elle, n'a rien à voir non plus avec la vie. L'inspiration, c'est l'artiste comme tel. Tandis que et le choix créateur, aussi normalement, il est dans l'ordre du facere. Et il a ses impératifs. Mais dès que vous êtes au niveau du travail, tout de suite, l'impérium. Impossible de travailler sans impérium. Impossible. Donc là, les liens sont très forts. Et à partir de là, tous les liens se font. Vous voyez, donc il y a des moments où l'homme, de fait, dans son âme et dans sa sensibilité, a quelque chose qui montre bien que cette distinction n'est pas factice, puisqu'à certains moments, il y a même une séparation. Il y a des moments à l'état pur. Vous voyez ? Alors, évidemment, vous comprenez bien que c'est le point de départ où c'est le plus net. Parce que le choix créateur, lui-même, ce qui est en vue de l'œuvre, le choix créateur peut avoir des liens avec l'autre choix. C'est bien évident. Les deux moments absolument purs, c'est ici. Et puis, lorsqu'il s'agit de l'amour et de l'intention. Là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait propre. Mais dès que vous tombez dans la question du conseil, dès que vous tombez dans l'information, dès que vous tombez dans... Alors, il y a déjà là. Mais, ce que je veux dire, c'est que il y a cependant une détermination propre de la liberté de celui qui aime à l'intérieur de l'amour d'amitié, et il y a une liberté propre à l'artiste. Il y a deux libertés distinctes, pas la même liberté. C'est ça qui est très curieux. Ça, ce serait très intéressant, on n'a pas le temps de le voir. Simplement, je souligne. Oui.
Quand Pascal dit qu'il veut faire l'ange, fait la bête.
Exactement, mais tout à fait ça. Qui fait l'ange fait la bête. Pourquoi ? Parce qu'il oublie qu'il a un corps. Vous voyez ? Et il croit que c'est uniquement en aimant qu'on va transformer les choses. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils moralisent le travail. Mais ne moralisons pas le travail. Moraliser le travail, c'est supprimer. Il y a un facere qui est propre. Vous voyez, il faut bien comprendre cela. Il y a des lois, des impératifs du facere qu'il faut respecter. Il y a des impératifs du corps qu'il faut respecter. Notre corps, nous le respectons et nous savons très bien que nous ne pouvons pas, voyez, le sublimer comme on le veut. C'est enfin, très important, ça. Il y a un respect de notre corps, exactement comme il y a un respect de la matière. Alors là, ça irait très loin aussi, le respect de la matière. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Et tandis que lorsqu'il s'agit d'amour, ah, c'est tout à fait différent, là. Il y a un autre respect, voyez, le respect de la matière et le respect de la personne humaine. C'est tout à fait deux choses tout à fait différentes. Bon.
Il peut y avoir également opposition entre agérer et facérer.
Ce que nous allons voir. Opposition. L'opposition vient du côté politique. Dans l'homme, il peut y avoir des moments de tension dramatique.
Jusqu'à l'impérium.
Oh, tout à fait. L'impérium, vous savez, c'est constamment, nous savons très bien.
C'est les conflits de
l'intérieur. Nous sommes paresseux. Mais il faut travailler, c'est pas commode. Et c'est là où la moralisation se fait. La moralisation se fait à ce niveau-là. Ah, tu dois travailler, il est chez le gosse, quoi. Le gosse, dès le point de départ, il doit aller à l'école. Il est paresseux, il a envie de faire quelque chose. Mais non, tu dois y aller. Vous voyez, plutôt que d'essayer de comprendre, attention, il faut travailler. Il faut essayer de travailler. Alors, vous imposez de l'extérieur un impérium absolu du devoir, qui fait que le travail n'a plus son attrait. Et c'est de l'extérieur. C'est pour ça que c'est si important, c'est pas commode. Hein. Le lien entre les deux, au point de vue psychologique, c'est pas commode. Vous êtes dans les deux phases d'exécution, là. C'est un moment qui serait très intéressant à étudier, d'un point de vue psychologique. L'imperium et le travail. Vous voyez, les deux aspects différents. Et essayer de redonner au travail sa propre valeur, indépendamment de l'imperium. Le travail a sa valeur, sa signification. C'est ce que je disais, l'amour du travail. L'amour du travail, c'est pas l'imperium. C'est autre chose. Et cet amour du travail provient du choix. Ce qu'on fait automatiquement. Il y a un gosse qui a la poste mathématique, qui aime les mathématiques, mais il aime de travailler les mathématiques. Un gosse qui aime de faire de la littérature, mais il aime de faire ça immédiatement, spontanément. Il aimera la lecture. C'est du travail. Il l'aimera. Et alors l'imperium n'a plus besoin d'exister. Il y a une espèce de phénomène de séduction. Oui. Bon, alors, je n'insiste pas plus, mais c'est simplement pour vous montrer que la personne humaine est structurée profondément par ces deux aspects du faire et de l'agir. Et vous retrouvez l'aspect de l'esprit et du corps. Parce que ça, je crois, capital. On ne peut pas parler de la personne humaine sans regarder le point de vue de l'esprit et du corps. Donc, sans regarder la nature, et en même temps, cette force intérieure qui est l'esprit. Alors nous regardons maintenant le troisième moment, ici je vais aller très vite, parce qu'il s'agit de laisser le temps à la réflexion plus appliquée, c'est le point de vue de la coopération. Je mis ça, point de vue philosophique, c'est que de fait, l'homme va pouvoir coopérer avec un autre homme dans le travail et dans l'amour d'amitié. Vous voyez, la coopération se situe à deux niveaux. La coopération dans l'ordre de l'amour d'amitié, elle se fait spontanément. La première coopération fondamentale, il ne faut jamais l'oublier, là, c'est à la famille, la procréation. La procréation, c'est la première des coopérations. Ça, c'est bien évident. Et c'est le fondement de toutes les autres. C'est pas celle qui détermine les autres, mais c'est le fondement. Autrement dit, la première coopération entre l'agir et le faire, je ne vais pas très ici, hein, je ne le mets pas, mais je le mets simplement, parce que je crois que c'est très important. C'est la famille, c'est la fécondité, tous les problèmes que ça peut poser aujourd'hui. Le point de vue de la procréation. C'est la première coopération de l'homme et de la femme. Et c'est là où il faut philosophiquement comprendre comment dans la procréation, il y a l'âme et le corps. Autrement, on tomberait dans une procréation animale et ce serait une procréation humaine. C'est l'amour d'amitié qui commande la procréation. C'est l'amour d'amitié de l'homme et de la femme. Mais cet amour d'amitié de l'homme et de la femme implique en même temps le point de vue du corps, implique en même temps le point de vue de l'instinct, et il doit être assumé. Et là, vous avez là tout le problème, oui, c'est de l'agir et du faire. Et constamment, on ne regarde ce problème-là aujourd'hui que du côté du Thatcherien. Tous les problèmes qu'on verra aujourd'hui. Comme si, de fait, il n'y a que le problème de l'instinct. Mais non, il y a le problème de l'âme spirituelle qui assume l'instinct. Et le problème premier, celui-là. Alors, vous regardez les conséquences d'efficacité. Vous regardez les conséquences de l'efficacité ou de la non-efficacité. Le gros problème aujourd'hui, c'est d'arrêter la fécondité. C'est un gros problème. Le problème majeur, c'est négatif, parce qu'on est dans une philosophie négative. Alors, le gros problème, c'est de voir comment je peux arrêter la fécondité. Tout en gardant l'amour, tout en gardant le plaisir. Et je fais une espèce de séparation entre le point de vue de l'efficacité et le point de vue de la fécondité. Et le point de vue de l'amour. Alors là, ce serait le même problème, je ne vais pas le traiter, hein. Mais je le souligne, parce que c'est quand même très important au point de vue philosophique. La distinction que nous avons faite entre le faire et l'agir commande entièrement ce problème de la première coopération. Et cette première coopération, c'est la famille. On ne peut pas changer ça, c'est les lois de la nature. Vous voyez, vous trouvez la nature et l'esprit. Vous retrouvez le point de vue du corps et le point de vue de l'esprit. Et on ne peut pas séparer les deux. Et alors, il me semble, hein, je dis bien, il me semble, ce serait très important à voir, que ce problème est vu surtout d'un point de vue psychologique aujourd'hui. Or, n'oublions pas qu'au point de vue psychologique, le facere est premier. Notre psychologie, quand elle est uniquement une psychologie, elle regarde avant tout et en premier lieu le facere, parce que c'est la chose la plus visible. L'agir est très difficile à saisir d'un point de vue psychologique. Prenez les tests. Les tests, il serait très intéressant à voir ça. Dans mes discussions avec les psychanalystes, j'arrivais toujours à ça. Je disais, est-ce que vous avez des tests du côté de l'agir? Tous les tests sont du côté du facere. Et l'agir, dans ce qu'il a de plus profond, est caché.
Est-ce que vous disiez pourquoi on n'avait pas du côté de l'agir?
Mais parce que c'est plus visible, c'est le conditionnement. Et le conditionnement, il est saisi à travers le corps. Oui, c'est beaucoup plus difficile de saisir la source. C'est ce que je disais, la psychologie ne dit pas ce que c'est que l'amour. Tandis qu'elle voit les réalisations. Vous pouvez facilement, vis-à-vis d'un ouvrier, voir son efficacité. Il fait tant de choses à l'heure. Ça, vous le mesurez. Mais son intention profonde, vous pouvez pas. Ça vous échappe complètement. Oui, et là, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on ne voit plus que cela. Et donc, vous faites une scission dans l'homme. Vous voyez, là, entre parenthèses, une chose que j'aime de dire. L'homme juge l'homme en fonction de son efficacité. Dieu regarde et sonde les reins et les cœurs. Vous voyez, c'est vous savez, la fameuse parole de l'Écriture, la vision de Dieu et de l'homme est aussi éloignée du ciel de la terre. Eh bien, de fait, nous pouvons, et c'est forcé, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais nous pouvons comprendre qu'il y a autre chose. C'est la seule chose qu'on demande. Qu'il y a autre chose. Que je ne peux pas ramener l'homme uniquement à son efficacité.
C'est ça. Ils ne vont pas mesurer la chose. Il ne faut quand même pas ignorer qu'elle existe.
Mais évidemment, voilà. C'est ramener tout l'agir au facere, c'est monstrueux. Comprendre que de fait, la seule chose que nous pouvons mesurer, c'est l'efficacité, c'est normal. C'est normal, c'est le conditionnement humain. Mais le conditionnement humain ne doit pas cacher la finalité. Si le conditionnement humain cache la finalité et qu'on n'en tient plus compte, nous tombons dans quelque chose de monstrueux.
Pourtant, quand on fait ce qu'on appelle une enquête de motivation, c'est-à-dire essayer de mesurer et d'agir.
Qu'est-ce que vous essayez de l'agir?
Une entreprise est facturée ou le facturé?
L'entreprise, elle est le facturé, mais elle implique l'agir.
On juge l'arbre à ses fruits.
On juge l'arbre à ses fruits. Et Dieu sont des reins et cœurs. Il ne faut jamais prendre qu'une seule parole de l'Écriture. Parce que l'Écriture, si vous regardez bien, l'Écriture est un équilibre merveilleux entre les deux. Et alors vous citez toujours une phrase, et il faut prendre l'autre. La parabole des bons talents. C'est tout le temps comme ça, vous voyez. Et au fond, l'hérésie, c'est de saisir qu'un seul groupe. Alors on fait une théologie, vous savez, c'est comme exactement là, au point de vue aujourd'hui, quand on dit, au point de vue de la Genèse, dominer l'univers, il y a connaître et aimer. Le dominium est dépassé par l'intelligence et dépassé par l'amour. C'est pas ça qui fait l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas uniquement dans le fait de dominer l'univers. Bon, alors, ça, il y a un très gros problème. Second problème, c'est comprendre la seconde communauté. Ici, c'est la communauté naturelle, fondamentale, qui est basée sur la fécondité et sur l'amour d'amitié. Alors là, nous avons bien la première communauté, qui est la communauté de la gire, de la gire, la famille. La famille est premièrement une communauté de la gire, parce qu'elle est fondée sur l'amour d'amitié. Tandis que la seconde communauté, elle est fondée, elle est en première en vue du facere. Alors il y a la troisième communauté, on ne va pas la voir, la communauté politique. Je crois qu'il y a trois communautés. Donc il y a trois coopérations. Il y a la coopération, premièrement au niveau de l'agir, dans l'amour d'amitié, qui est tout le problème de la fécondité. Et qui est tout le problème de l'amour de l'époux et de l'épouse, ou l'amour d'amitié. La seconde communauté qui est au niveau du facere, où la note dominante est le facere, la communauté des travailleurs. le travail. C'est là où se situe l'entreprise, c'est bien évident. Et puis il y a la communauté politique. Et la communauté politique doit maintenir un équilibre entre les deux. La communauté politique, elle n'est pas uniquement de l'agir. Une politique qui serait de l'agir, ce serait une politique uniquement familiale, ben, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, ça existe, ça existait dans l'Antiquité. C'était les communautés qui étaient la suite de la famille. Vous voyez, qui serait assez dans le sens de Platon. La politique uniquement, prolongement de l'agir. Et puis, une politique qui serait uniquement du côté du facere, donc uniquement du côté de l'efficacité, ce serait aussi quelque chose d'imbuvable. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, l'aspect politique tend à être de plus en plus du côté du facere. Parce que tout le climat d'aujourd'hui est beaucoup plus du côté du facere. Il est beaucoup plus du côté de l'efficacité. On est presque en situation limite aujourd'hui de l'agir. Presque. Alors c'est presque étouffé. C'est pour ça qu'il faut maintenir ces distinctions, parce que si on ne les voit pas... Alors, la communauté intermédiaire, c'est cette communauté-là qu'il s'agit de voir maintenant. Cette communauté intermédiaire. Cette communauté intermédiaire, c'est la communauté en vue de la réalisation d'une œuvre. Voilà le but. Réaliser une œuvre pour permettre le bien-être. C'est l'œuvre. Comment du tout. Il ne faut pas le profit en premier lieu. Mais pour que l'œuvre puisse se réaliser, il faut un équilibre. Et donc il faut qu'il y ait du profit. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas premier. C'est en vue de l'œuvre. Qu'il y ait des moments de crise et qu'on ne voit plus et qu'on essaie de rétablir un équilibre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est l'œuvre qui commande cette communauté. C'est l'efficacité du travail. L'efficacité du travail qui permet donc à cette communauté intermédiaire d'exister. Tandis que lorsqu'il s'agit du point de vue de la communauté politique, c'est le bien commun des citoyens. Ce qui est tellement difficile à préciser. Le point de vue politique est commandé par le point de vue de la justice. Mais comprenons bien, toujours, toute communauté humaine implique fondamentalement le respect de la justice. Donc il y a une justice au niveau de la communauté des travailleurs, il y a une justice politique et il y a une justice familiale. Ah, ça, ce serait aussi très intéressant. Je ne fais que souligner. Trois justices. Dès qu'il y a justice, vous avez l'agir. Parce qu'il y a le respect de l'autre. Pas de communauté, pas de coopération sans le respect de l'autre. Et donc sans une certaine justice, mais la justice familiale qui est complètement absorbée par l'amour, hein, au sens strict, il n'y a pas de justice au niveau de la famille. Au sens strict, il y en a quand même eu.
La peine de mort.
Quoi ?
La politique, la peine de mort.
Ah, ça c'est autre chose, hein, oui. Mais c'est le cas extrême, hein, c'est le cas extrême, c'est le cas de la justice. C'est le cas de la justice, ça, c'est de savoir jusqu'où va le pouvoir politique, jusqu'où va l'autorité politique. Mais vous voyez qu'avec la coopération, et c'est ça que je veux tout de suite souligner, avec la coopération va naître un nouveau problème que nous n'avons pas vu jusque maintenant, le problème de l'autorité. Le problème de l'autorité s'enracine dans l'imperium, le commandement par rapport à soi-même. Si on n'arrive pas à se commander soi-même, on n'arrivera pas à commander aux autres. Vous savez, le vieil adage, avant, si on ne sait pas obéir, on n'arrivera pas à commander. Hein. C'était la chose ancienne qu'on disait. Moi, je crois qu'il faut dire, celui qui n'a pas le sens de la responsabilité à l'égard de lui-même, et qui ne sait pas se commander soi-même, dans l'imperium, ne pourra pas commander aux autres. Oui. Alors, il y a le problème de l'autorité. Alors, au cœur de toute la communauté, il y a ce que, au point de vue philosophique, on a toujours vu, et qui reste un problème extrêmement intéressant, c'est la naissance de cette coopération entre le maître et l'esclave. Vous savez bien, vous connaissez la dialectique du maître et de l'esclave. Je vais simplement développer ça, parce que je crois que c'est ça qu'il faut souligner. Le patron et l'ouvrier, déclinez ça comme vous voulez. Hein. Ça se décline de multiples manières. Parce que le maître, c'est celui qui commande. Donc c'est celui qui a autorité. Et l'esclave, c'est celui qui exécute. C'est les deux. Bon, cet aspect-là, n'oubliez pas qu'au plan, je parle ici au plan philosophique, il existe en philosophie grecque, il a été repris par Hegel, il a été repris par Marx. Mais ce n'est pas seulement Hegel, c'est pas Hegel qui l'a inventé, hein. C'est beaucoup plus ancien, c'est dans la philosophie grecque. Alors, dans la philosophie grecque, il voit là une coopération. Vous comprenez qu'on peut exécuter uniquement pour le plaisir d'exécuter sans qu'il y ait aucun lien moral. C'est là où on voit bien la différence entre l'agir et le faire. Au point de vue moral, c'est là où le problème de l'obéissance va jouer. Et au point de vue du faire, c'est simplement l'exécution. On peut très bien obéir, on peut très bien exécuter de diverses manières. On peut exécuter uniquement parce qu'il faut exécuter, peur du gendarme. Si je n'exécute pas, c'est tout. Mais j'exécute vraiment parce que je dois exécuter, c'est tout. J'exécute en me serrant les dents. Donc, sans aucun sens de la finalité. Si au contraire, il y a un lien d'obéissance, alors à ce moment-là, celui qui exécute va de fait avoir la même finalité que celui qui a l'autorité. Et au fond, tout le problème est là. Philosophiquement, tous les grincements et toutes les tensions sont là. Vous comprenez que je suis à un niveau ici du travail, dans la mesure où la communauté des travailleurs est infestée par des idéologies politiques. Les idéologies politiques font. Les idéologies politiques sont au niveau politique. Si vous ne respectez plus que la communauté des travailleurs, que la communauté qui a en vue une œuvre, a une certaine autonomie pour pouvoir réaliser une œuvre. Si l'aspect politique intervient d'une manière tellement forte et fait qu'entre politique et le point de vue économique, il n'y a plus aucune distinction, si c'est le point de vue politique qui commande tout le point de vue de l'économie, la communauté des travailleurs disparaît. Elle est téléguidée par des mots d'ordre politique. Et quand elle est téléguidée par des mots d'ordre politique, à ce moment-là, le point de vue de l'esclave et du maître va n'être non plus une coopération, mais au contraire, le lieu de la lutte, le lieu de la rivalité. Ce n'est que dans la mesure, vous voyez, je crois que tout est là, hein, vous voyez, quand je précise ici, hein, si vous ne respectez plus cette troisième dimension, qui a quelque chose de distinct de la dimension intermédiaire, vous ne respectez plus que, de fait, la communauté du travail a ses impératifs propres, a son autonomie propre. Si elle est entièrement envahie par le point de vue politique, le point de vue politique, c'est le lieu des idéologies. Je pense que c'est très bien. C'est le lieu où les idéologies naissent le plus. Alors, à ce moment-là, vous comprenez que la coopération qui est au cœur, hein, la coopération implique toujours ces deux éléments. Quelqu'un qui exerce l'autorité, quelqu'un qui exécute. Vous êtes là au cœur de la coopération.
Vous avez fait un ordre là, pour la coopération entre les différentes...
Oui, les trois chronologiques. Oui, trois coopérations.
Est-ce qu'il y a une primauté catégories?
Oui, il faudrait préciser, il faudrait les justifier philosophiquement. La famille est fondamentale.
Donc, non seulement chronologiquement, si je puis dire.
Chronologiquement aussi, et naturellement.
Naturellement aussi.
La famille est fondamentale. Donc, et la famille a son autonomie.
Au niveau de la coopération, on pourrait dire que tout le reste est ordonné à la première.
Ah, oui, ça c'est sûr. Tout le reste est ordonné à la première, fondamentalement. Mais il y a cependant, alors faisons attention, hein, l'aspect politique a aussi sa propre finalité. C'est pour ça que j'avais mis le bien commun, qui est le bien-être. Le bien-être des citoyens. Vous voyez, alors, je ne pourrais pas dire que la politique est totalement ordonnée à la famille. Il y a dans l'aspect politique des impératifs qui dépassent la famille. Mais il y a dans la famille, c'est pour ça que c'est très complexe, hein, ici je schématise un peu, ça ne peut pas être autrement, mais il y a dans la famille quelque chose d'unique et de fondamental qui fait que dans la famille, il y a un bien commun de la famille Dès qu'il y a coopération, il y a un bien commun. Il y a un bien commun de la famille auquel l'État, la politique, ne peut pas intervenir. C'est au fond l'autonomie de la personne humaine. L'autonomie de la personne humaine dans l'ordre de l'amitié, dans l'ordre de la procréation, dans l'ordre de l'amitié et du choix, dans l'ordre de la procréation et dans l'ordre religieux. Parce que la famille, c'est toujours la sauvegarde du point de vue religieux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas la politique qui est le point de vue sauvegarde. Quand l'État devient religieux, ça devient tragique. L'État doit respecter, tandis que la famille religieuse, c'est ça qui est très curieux. La famille religieuse, par nature, elle est religieuse. Et donc, il y a les trois dimensions où, de fait, la famille a une certaine indépendance, le choix amical, l'amitié personnelle, donc, qui touche la finalité, la fécondité et la procréation, et puis le point de vue religieux. Moi, je mettrais les trois dimensions. C'est les trois dimensions sur lesquelles, de fait, la famille a son autonomie, et elle doit garder son autonomie. Et l'État doit sauvegarder cela.
Et par justice, par souci de justice.
Ah, par souci de justice. Et par souci, tout simplement, de faire que l'État puisse continuer. Parce que la famille, mais même d'efficacité.
D'efficacité pour l'État.
Même d'efficacité. Un État n'est fort que dans la mesure où la famille est forte. Si la famille disparaît, tôt ou tard, l'État disparaît. La politique disparaît. Vous voyez ? Parce que la famille reste, de fait, fondamentalement, le lieu, la source de renouveau, de renouvellement.
C'est intéressant de pas analyser ce que vous voulez dire à propos de l'éducation, par exemple.
Mais oui, l'éducation, on va dire. Alors, j'ai les trois. Il faut ajouter le quatrième. L'éducation.
Oui,
la justification du slogan Vichy.
Mais non, c'est pas. Slogan de justice, c'est pas ça du tout. Le slogan de justice prend. Vichy prend uniquement les applications matérielles quand vous les regardez de près. J'étais pas du tout avec Vichy, moi. Pas du tout. Parce que, vous voyez, c'est des applications matérielles. C'est ce que vous faites immédiatement, vous faites une application matérielle. Alors, c'est pas ça.
Mais je n'ai pas passé la première, je passe une marche arrière.
Il y aura quelque chose indépendamment de Vichy qui a toujours existé, qui est bien plus ancien que Vichy et que Vichy a schématisé. Voilà. Quand on schématise une chose, même quand c'est une chose bonne, ça devient intolérable. Il faut comprendre que la famille a son autonomie fondamentale. Et quand vous supprimez cette autonomie, eh bien, tôt ou tard, vous verrez l'anarchie. C'est impossible autrement.
Il semble que les théoriciens marxistes les clichés pour l'État russe, en tous les cas.
C'est évident, quand je regarde le point de vue de la Russie, quand je regarde le point de vue d'Israël, vous savez bien ce qui s'était passé dans Israël.
La Chine, les kibbutz,
la Chine. Mais tout, partout, c'est comme ça. Ils font l'expérience, ils s'aperçoivent au bout de quelques années qu'on ne peut pas être obligé de revenir en arrière. Et les hommes ne font pas, c'est ça, parce que les hommes politiques passent et ne regardent pas cela. Alors qu'il y a quelque chose, je crois, ça, alors, farouchement, philosophiquement, indépendamment de tout régime politique, c'est absolument dehors. Farouchement, c'est que la famille garde ses quatre indépendances. L'indépendance du choix de l'amitié, le point de vue de la procréation, l'indépendance au niveau proprement de le point de vue de l'éducation, qui est quelque chose d'absolument primordial. C'est la source. Vous voyez, la famille, elle est source. Si elle n'est pas source, si vous tarissez la source de la fécondité, eh bien, l'efficacité elle-même ne pourra pas exister. Tandis qu'ici, vous êtes au niveau d'efficacité, c'est bien évident. C'est pour ça que l'aspect politique doit sauvegarder la famille, doit permettre une efficacité toujours plus grande au niveau du travail. L'ingérence de la politique est plus grande du côté du travail que du côté de la famille, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Elle est plus grande. Mais si elle est intelligente, elle doit sauvegarder une certaine autonomie au travail. Si on supprime cette autonomie de la communauté du travail, eh bien là encore, très très vite, on saute une dimension, une structure humaine. Vous ne pouvez pas changer ça, c'est la structure de l'homme. L'homme est la famille, il y a le travail, et puis il y a l'aspect politique qui dépasse, qui fait l'unité entre les deux, parce qu'il pourrait y avoir une tension entre les deux.
Est-ce que vous ne démontrez pas par là ce qu'on appelle le principe de subsidiarité ?
Oui, oui, c'est tout à fait. Le principe de subsidiarité, c'est exactement ça. C'est de respecter les niveaux. Les niveaux d'autorité. Parce que c'est respecter les niveaux d'autorité, c'est le principe de subsidiarité. comprenez, qui est au fond, c'est, j'aimerais mieux dire, la loi de subsidiarité, au sens technique, au sens précis. C'est une loi de respecter les diverses autorités. L'autorité, elle doit être respectée là où elle est, mais elle doit toujours être vue dans le point de vue de la limite. Alors, il y a un très gros problème, vous voyez, donc, je veux dire, au cœur de toute communauté, c'est la coopération. Et vous voyez qu'ici, normalement, si le maître et l'esclave, hein, je prends le terme ancien, parce que c'est le maître et l'esclave. L'esclave ne veut pas dire du tout qu'il y a un, ça veut dire celui qui exécute. Celui qui enseigne, voilà mon expérience, et celui qui est étudiant. C'est le même problème. Le jour où il n'y a plus de coopération entre celui qui enseigne et les étudiants, on ne peut plus enseigner. Plus aucune efficacité. En mai 1968, on a eu l'expérience. Et on a tous subi. Alors en Suisse, évidemment, il y avait, heureusement qu'il y avait une grande digue. Alors on a subi un peu moins, mais on l'a subi. On l'a subi. C'est assez extraordinaire et intéressant à voir. Comme on se connaissait tous, on est, le phénomène du nombre joue énormément là-dessus. Le phénomène du nombre. C'est pour ça que je crois que c'est très important de supprimer une masse neutre. Et de respecter, alors principe de subsidiarité, de respecter les relations humaines. Vous comprenez, ceci, maître et esclave, ne peut exister que s'il y a une relation humaine. Parce que s'il y a une relation humaine, la finalité passe. S'il n'y a plus de relation humaine, la finalité ne passe pas. Et alors à ce moment-là, tous les slogans politiques viennent transformer l'esclave dans un double esclavage. On est esclave des idéologies. Et alors à ce moment-là, il y a une tension qui se fait, et alors entre les deux, il y a la dialectique. La dialectique hegelienne, entre le maître et l'esclave, parce que ce n'est pas Marx qui l'invente, c'est Hegel qui a inventé ça. La dialectique entre le maître et l'esclave provient de montrer que plus le maître grossit, c'est-à-dire plus le pouvoir du maître augmente, plus le pouvoir du maître augmente, plus l'esclave est inférieur. Ce qui fait qu'il y a une opposition qui se fait de plus en plus grande entre les deux. On ne regarde plus que le conditionnement du maître et le conditionnement de l'esclave en laissant tomber la finalité. Parce que la relation humaine n'a plus existé. Donc, il faut redonner les relations humaines les plus fortes possibles pour que le passage de la finalité puisse se faire. Ça, philosophiquement, c'est impossible autrement, puisque la communauté n'existe que quand il y a une coopération. Une coopération implique une relation humaine en vue d'une même fin. Il s'agit de faire passer une finalité. Et une finalité, ça ne se passe pas d'une façon mécanique. Une finalité ne se passe que par un contact humain. Un homme finalisé peut, lui, finaliser les autres par une relation humaine. Si la relation humaine disparaît, alors vous voyez tout le point de vue de l'agir là, à l'intérieur du factionnel. Si la relation humaine n'existe plus, eh bien c'est forcé dans un monde où les idéologies sont si puissantes, la finalité disparaîtra et il n'y aura plus que le drame et les oppositions. Et les oppositions augmenteront, parce que nous sommes dans un régime dialectique au niveau des idéologies. Et la dialectique ne supprime la finalité et ne voit que le point de vue du conditionnement. Oui. Donc, ceci, je crois que c'est le cœur au point de vue philosophique. Alors, un tout petit mot. Je vais parler d'autorité et de pouvoir. Ce serait très intéressant, parce que je crois que ça joue un très grand rôle, de regarder la question de l'autorité et du pouvoir. Alors, un mot seulement. Hein. L'autorité se fonde, il faudrait regarder quelles sont les qualités de l'autorité. L'autorité se fonde sur l'intelligence. C'est celui qui est capable de découvrir une finalité. Celui qui ne découvre pas une finalité n'a pas d'autorité. Il peut être investi de pouvoir, mais il n'a pas d'autorité. Et c'est très important, l'autorité est personnelle. L'autorité est personnelle. Et l'autorité se traduit dans l'imperium. En premier lieu, ce n'est pas dans le travail, c'est l'imperium. C'est propre du chef, c'est de commander, mais de comprendre ce que représente le travail. Hein. Mais il commande. Alors l'autorité est fondée sur l'intelligence, mais elle implique la tension le regard vers la fin. Celui qui a autorité doit incarner la fin. Il incarne la finalité. Il la porte en lui. Et tout en lui est ordonné vers ce point de vue de la fin. Il finalise cela. Le pouvoir, c'est de l'ordre de l'exécution. Tandis que l'autorité est de l'ordre de la finalité. Vous voyez, nous disons, dans un langage chrétien, que le démon a beaucoup de pouvoir, mais qu'il n'a aucune autorité. C'est évident. Il a beaucoup de pouvoir, mais il n'a aucune autorité. Bon. Et nous pourrions appliquer, alors à partir de là, tous les gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui n'ont aucune autorité. Et c'est important de faire la chose, parce que l'obéissance, au point de vue de l'agir, regarde l'autorité et pas le pouvoir. Quand j'exécute par rapport à un pouvoir, je le fais en grinçant des dents. Et je n'ai pas de coopération.
C'est la servilité.
Servilité. Il n'y a pas de coopération. La coopération est au niveau de l'autorité. Alors, cette confusion, alors là, je suis bien obligé de le dire là encore, cette confusion, elle s'est faite à partir du XIVe siècle avec notre cher Occam. À partir du XIVe siècle, il y a eu confusion entre autorité et pouvoir.